Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Hier à Nice, se sont tenues les obsèques de Jean Pormanov. La mort de ce streamer en direct sur la plateforme Kick a choqué par sa violence, par l'absence d'intervention de l'État, par le cynisme aussi des acteurs économiques engagés. Elle a choqué également parce que des internautes nombreux payaient pour voir et continuaient de voir ces tortures physiques et psychologique qui lui était infligé. Ainsi, cette affaire interroge sur la façon dont le numérique distord le réel, comment il l'éloigne, le brouille, jusqu'à en déshumaniser certains. Le rapport au réel, justement, c'est le sujet, le cœur même d'un livre qui paraît cette semaine, signé du sociologue Gérald Bronner. Après la post-vérité, nous serions entrés, selon lui, dans l'ère de la post-réalité, où nous cherchons à façonner le réel à notre convenance et selon nos désirs. Si ce rêve n'est pas nouveau, il semble que nous ayons aujourd'hui les outils nécessaires pour y parvenir. Alors, comment qualifier cette post-réalité? Comment la décrire? Comment sommes-nous arrivés à ne plus prendre en compte le réel? Un invité, évidemment, ce soir pour en parler, l'auteur du livre, Gérald Bronner, bienvenue.
Merci, bonsoir.
Bonsoir, vous êtes professeur de sociologie à l'Université Paris-Sorbonne, membre de l'Académie des technologies, membre également de l'Académie nationale de médecine. Et je rappelle le titre de votre ouvrage qui paraît aux presses universitaires de France, « À l'assaut du réel ». Bienvenue dans Question du soir.
Mort en direct sur Internet. La justice ouvre une enquête pour comprendre pourquoi le streamer Jean Pormanov est mort dans la nuit de dimanche à lundi. Un streamer de 46 ans, connu sur les réseaux sociaux sous le nom de JP, est connu pour subir des violences filmées pendant des heures en direct. Violences infligées par deux autres streamers. L'ARCOM explique ne pas avoir pu agir car selon elle, il n'existe pas de représentant officiel de la plateforme Kick dans l'Union européenne. De son côté, l'avocat d'un des deux streamers qui va être entendu par la justice assure qu'il s'agissait, je cite, de mise en scène préparée.
Je le disais, Gérald Bronner, dans ce drame, énormément de choses interrogent, mais la chose la plus frappante peut-être, c'est que des personnes, des internautes en l'occurrence, ont payé pour voir cet homme torturé physiquement, psychiquement. Est-ce que le numérique en vient parfois à distordre notre perception du réel et en quelque sorte à nous déshumaniser parfois ?
Il semblerait dans cette triste affaire que oui. J'observe d'abord, et c'est un des faits troublants, que ce fait dramatique a été en quelque sorte précédé par la fiction. C'est-à-dire cette histoire est racontée à la limite dans certains films, dans certains romans, et même dans des séries télé. On a l'impression de voir un épisode de Black Mirror, d'ailleurs assez récent sur ce point. Et d'autre part, oui, c'est vrai, d'abord par le fait que nous utilisions, enfin que certains utilisent des pseudonymes, par exemple, et qu'il y ait une distance physique dans les interactions qui sont, et le drame nous le rappelle, de vraies interactions, il peut y avoir une distanciation morale. J'observe aussi, et c'est un fait moral très intéressant, parce qu'il s'agit d'une dilution de la responsabilité par association. En réalité, je ne parle pas de la responsabilité réelle, de la plateforme et des individus qui se prétendaient ses amis dans cette affaire, mais ce qui est le plus fascinant et le plus mystérieux d'un point de vue sociologique ou psychologique, c'est le fait que chacun peut ajouter sa petite goutte sans se sentir responsable du tout. Parce qu'en fait, celui qui reçoit en réalité la charge collective reçoit une charge plénière. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on appelle le paradoxe du saurite. C'est-à-dire que ce n'est pas avec un grain de sable qu'on fait un tas. Mais pourtant, un tas est bien constitué d'un ensemble de grains de sable. Donc je pense que les philosophes, je n'en suis pas, devraient réfléchir à ces nouvelles normes morales qu'impliquent justement ces attaques en essaim. Parce qu'on se sent très vite non responsable soi-même quand on a fait si peu, alors que le drame est si important.
L'une des notions au cœur de votre ouvrage, il y en a beaucoup, d'ailleurs on y reviendra, c'est la notion de réel. Comment est-ce que vous la définissez? Quel est le point de départ pour comprendre ce qu'est fondamentalement le réel et la réalité, disons?
Alors, on chercherait avec beaucoup de difficultés, et il faudrait lire toute l'histoire des idées. Je ne lis ni la compétence ni le temps, mais j'ai quand même fouillé dans l'histoire de la philosophie pour voir s'il y avait des définitions consensuelles de la réalité. On n'en trouve pas vraiment. Par contre, un point commun de beaucoup d'auteurs qui m'ont marqué, c'est qu'ils font cette remarque. La réalité, le réel, se fait connaître à nous par les rebuffades qu'il impose à l'expression de nos désirs. C'est par exemple la phrase, alors ça m'arrivera pas souvent, je vais citer un psychanalyste, Lacan qui est bien connu, hein, le réel c'est quand on se cogne. Et Richard Dawkins, un auteur auquel je me référerai plus volontiers, fait exactement la même remarque. Il y a aussi cette belle définition, alors d'un auteur de science-fiction, nous y revoilà, Philip K. Dick, qui disait « le réel c'est ce qui demeure même quand on cesse de croire en lui ». C'est ce qui résiste en quelque sorte à l'expression de nos désirs, et c'est probablement ça qui est en crise aujourd'hui, c'est-à-dire le rapport que nous avons avec le désir adressé au réel, ce qui est tout à fait naturel, et les noms que le réel oppose à notre désir, ce qui est tout aussi naturel, mais il semblerait que nous soyons aujourd'hui dans des conditions particulières qui nous permet de moins entendre ce nom, de rester aveugle à la lumière parfois qu'il voudrait opposer justement à notre dérégulation du désir.
Alors à propos de réel et de rebuffade, hein, Gérald Brunner, je voudrais que vous nous racontiez une histoire qui n'a pas de lien direct avec le réel, mais vous allez nous l'expliciter, l'épopée de Gilgamesh. En quoi nous permet-elle de comprendre justement la façon dont le réel nous contraint à nous cogner à lui justement parfois?
Ben, vous avez raison d'en commencer par Gilgamesh, puisque je le fais moi-même dans le livre, vous l'aurez noté. Et c'est aussi pour rappeler le genre de sociologie que je pratique, si vous me permettez d'une phrase. C'est ce que je crois que les sciences sociales ont beaucoup intérêt à s'intéresser aux invariants de la pensée humaine lorsqu'ils s'hybrident avec des paramètres sociaux contemporains. C'est ce que j'essaye de faire. Et en l'occurrence, c'est pour ça que je convoque Gilgamesh, qui est l'épopée de Gilgamesh est probablement le plus vieux texte d'épopée, le plus vieux roman, si vous voulez, de l'humanité, et qui raconte l'histoire d'un individu qui est pour un tiers dieu, deux tiers humains, et qui va affronter quelqu'un qui s'appelle Enkidu, et qui va devenir, évidemment, comme souvent, les garçons, quand ils se battent, parfois ils deviennent amis, ça va devenir son frère, son ami, sauf que Enkidu meurt, ce qui fait prendre conscience à Gilgamesh qu'il est lui aussi mortel, il est tout puissant, mais mortel. Et donc il va partir dans une quête aussi vieille que l'humanité, de l'immortalité. Et en fait, c'est là l'expression, pour moi, d'une pensée désirante, c'est-à-dire de vouloir s'affranchir des conditions biologiques fondamentales qui pèsent sur nous, puisque la mort a évidemment un horizon jusqu'à présent qui n'a pas été dépassé. Vous voyez, il y a quelques milliers d'années, déjà, les hommes écrivaient des histoires où l'on rêvait de plier le réel à son désir. Mais déjà à l'époque, spoiler alerte, pardon pour ceux qui l'ont pas lu, bah ça échoue évidemment, sinon on serait pas là pour en parler. Le pauvre Gilgamesh est bien obligé, c'est peut-être une forme de sagesse, d'accepter sa finitude.
Puisque le serpent qui devait justement lui conférer l'immortalité parvient à s'échapper et l'être humain est condamné à l'immortalité. Je fais un très 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 grand bond dans l'histoire, on arrive à mai 68. Quel lien cette fois-ci faites-vous entre le réel et l'expression du désir? Pourquoi vous focalisez-vous sur cette période en particulier? Qu'est-ce qui se joue à ce moment de l'histoire française?
Alors, je pense que mai 68 n'est la cause de rien, ou peut-être.
L'expression,
mais en tout cas, c'est un symptôme très intéressant. Bah, d'abord, on se souvient que c'est d'abord avant tout un mouvement politique, hein, je ne veux pas le dénaturer, mais quand même ce mouvement politique tire tout de même ses racines de la volonté de la jeunesse de l'époque, et je la comprends, de vouloir s'émanciper de tutelles notamment morales qu'elle trouvait trop contraignantes. La jeunesse de l'époque se sentait corsetée, on se souvient que tout ça a commencé pour des questions de mixité, pour pratiquer le sport ou dans les dortoirs, etc. Donc il y avait une volonté de désir, hein, de s'affranchir en effet de contraintes, sauf que il y avait en quelque sorte un passager clandestin, parce que parmi tous les groupes très à gauche qui ont animé ces mouvements, il y avait aussi un groupe qui était très à gauche, qui s'appelait les situationnistes. Et il se trouve que...
C'est la figure notamment de Guy Debord, par exemple.
Guy Debord,
entre autres.
Ce spectacle, il y en a quelques autres. Et quand on lit leur thèse, comme je l'ai fait pour préparer ce livre, on s'aperçoit que surtout ce sont des gens qui s'ennuyaient et qui détestaient l'ennui et qui se demandaient comment réinventer la vie, réenchanter le monde en quelque sorte. Et leur philosophie a essaimé surtout dans les slogans de mai 68. Soyons réalistes, demandons l'impossible, l'imagination au pouvoir, qui me semble être des expressions les plus pures d'une subjectivité qui veut s'imposer au monde. Ce qui est amusant dans cette affaire, parce que je ne résume pas du tout mai 68 à cela, c'est qu'on peut recopier, coller ces slogans et les placer dans les années 80 et 90. On va les retrouver, mais cette fois en illustrant des produits qu'on peut vous vendre, parce que ce sont des slogans publicitaires. Deviens toi-même, etc. Et en fait, à mon avis, ce qui s'est produit dans cette période, c'est qu'il y a une substitution tutélaire. On est passé de Marx, en quelque sorte, à Jean-Jacques Rousseau, dont les propositions concernant l'éducation étant que, précisément, on doit veiller à ne pas trop influencer un enfant pour qu'il devienne lui-même. L'idée qu'on serait soi-même et qu'on serait empêché de devenir soi-même à cause de la toxicité de l'environnement. Et la grande passion du temps contemporain, une des grandes narrations qui s'impose à nous, c'est cette idée-là, que nous serions quelqu'un qui n'a pas encore réussi à s'épanouir en raison de la toxicité de son environnement, de son histoire, de sa famille, et on va chercher sans cesse les causes pour pouvoir enfin devenir soi-même.
Mais pour bien comprendre ce que vous nous expliquez là, Gérald Brunner, ce que vous écrivez par ailleurs dans cet ouvrage intitulé « À l'assaut du réel », est-ce que cela veut dire qu'on refuse pour beaucoup de se cogner au réel, justement, que nos désirs désormais nous animent à tel point que l'on refuse de reconnaître, de discerner, de saisir le réel ?
Bah en tout cas, nous avons développé, je dirais, à partir des années, justement, après mai 68, et ça, c'est mondial, donc c'est pas mai 68 qui est responsable, mais disons, dans les années 70, 80 et 90, ce sont des périodes qui sont passées relativement inaperçues, je trouve, dans l'analyse des faits contemporains. Parce qu'on parle beaucoup des mondes numériques, j'en ai aussi beaucoup parlé, mais ce dont je parle là, ça précède un peu cette période de l'apparition des mondes numériques. Et on voit des grandes stratégies pour plier le réel à son désir. Alors la première, qui peut sembler étrange, c'est celui du contournement. Il y a certaines communautés, et j'ai étudié de très nombreuses communautés qui peuvent sembler étranges, on en parlera peut-être dans notre entretien, mais il y a certaines communautés qui essayent de se mettre à l'abri du réel, précisément parce que le réel refuse d'exaucer les désirs tels qu'ils l'avaient imaginés. Évidemment, ces désirs, ils sont aussi fonction des injonctions que la société fait aux individus. Quand on dit à l'individu « tu peux espérer beaucoup, tu peux devenir tout », il est assez naturel que beaucoup d'entre nous ressentent une frustration qui est proportionnée à la mesure de ses désirs. Et par exemple, au Japon, lorsqu'il y a une grande crise au début des années 90, on a vu, et par centaines de milliers de jeunes gens qui se sont mis, c'était surtout des garçons, sont mis à refuser de sortir de leur chambre. Et on les appelle les hikikomori, ils sont des communautés, et certains, depuis, n'en sont toujours pas sortis. C'est-à-dire qu'ils habitent chez leurs parents. Et c'est symboliquement très intéressant, puisque Maya Fanstein, qui est une sociologue française qui a étudié ces questions, disent qu'ils cherchent à vivre dans un présent perpétuel. Donc en fait, ils cherchent à abolir l'incertitude, en quelque sorte la largeur du temps. Parce que c'est ça qui pèse aussi comme une malédiction sur notre angoisse collective, c'est que nous avons conscience plus que les autres animaux que le temps est large et qu'il ouvre un monde de possibles dont certains ne sont pas désirables. Donc ces communautés, par exemple, se mettent à l'abri, d'autres s'auto-hypnose pour explorer des mondes imaginaires. C'est une position de retrait. Mais certains autres sont beaucoup plus offensifs. Ils cherchent tout simplement à corrompre le réel.
Et c'est l'expression que vous utilisez énormément, cette expression de la corruption du réel. Qu'est-ce que vous voulez dire justement par là ?
La corruption du réel, c'est la falsification des signes que le réel nous envoie pour le comprendre. Et donc, on va se ménager des espaces qui vont convenir à notre représentation du réel. Je vous en donner un exemple très concret. Une des figures les plus magistrales de cet état de fait, c'est Donald Trump, par exemple, qui vient très récemment de licencier la chef du Bureau des études du travail, statistique, parce que tout simplement, les résultats du rapport qu'elle a coordonné ne lui convenaient pas. Donc, il voulait un autre réel. Donc, en fait, quand on casse les thermomètres, c'est une façon de ne pas avoir négocié directement avec le non que le réel nous impose.
Vous avez prononcé son nom, Donald Trump, le président américain. Écoutons-le sur un autre sujet, la comparaison de migrants avec des chiens et des chats, puisque les migrants mangeraient, selon Donald Trump, des chiens et des chats.
Qu'ont-ils fait à notre pays en laissant ces millions de personnes entrer chez nous ? Regardez ce qui arrive partout aux États-Unis. Beaucoup de villes ne veulent pas en parler, comme Aurora ou Springfield. Elles ne veulent pas en parler parce qu'elles en ont honte. À Springfield, ils mangent les chiens. Ils mangent aussi les chats. Ils mangent les animaux de compagnie des gens qui vivent là-bas. Cela se passe dans notre pays. C'est une honte.
Lorsque Donald Trump prononce ces mots le 11 septembre 2024, Gérald Brunner, est-ce qu'il a conscience de dire absolument n'importe quoi ou il croit un peu lui-même à son énoncé ?
Alors, je ne suis pas dans sa tête. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas trancher. Par contre, on peut s'interroger sur la réception que les gens en ont. Et je parierais volontiers que certains individus croient au premier degré cette déclaration, mais qu'un certain nombre de ses supporters, c'est difficile de les dénombrer, croient cela au deuxième degré, en quelque sorte, c'est-à-dire symboliquement. C'est-à-dire qu'ils ne croient pas, à proprement parler, que c'est vrai que des migrants mangent des chats et des chiens, mais sans doute qu'ils se disent que c'est un fou qui dit le vrai. C'est-à-dire qu'il dit, par exemple, la dangerosité des migrants. C'est une forme de métalangage qu'utilise Donald Trump, et je parierais assez sur le fait que Donald Trump en a parfaitement conscience.
Vous expliquez aussi que c'était une forme, un signe de ralliement, un moyen de créer un sentiment d'appartenance, comme si au fond l'esprit grégaire était supérieur à la volonté de savoir.
Oui, c'est je crois aussi que ce personnage se tient au croisement. Là aussi, c'est le croisement des flux entre la réalité et la fiction. C'est-à-dire que la carte et le territoire paraissent se mélanger. Et c'est intéressant, quand on regarde la biographie de Donald Trump, c'est quelqu'un qui a fait de l'argent, parce qu'il a fait aussi il a échoué aussi beaucoup de fois, mais il l'a fait dans le domaine des casinos, dans le domaine immobilier, où justement, c'est un endroit qui vit en partie sur la distraction. C'est la culture du divertissement, du spectacle. Et il est très lié aussi à l'histoire du catch américain. Et je consacre un chapitre dans le livre sur l'expression kayfabe, qui est un mot qui est constant dans le catch. C'est un mot argot, en fait, de verlan, qui date du 19e siècle et qui veut dire, si on l'inverse, qui veut dire be fake. Continue à être faux. Voilà. Continue à être faux pour que nous puissions suspendre volontairement notre incrédulité. Et c'est exactement ce qui se passe quand on va au cinéma ou qu'on regarde même un match de catch. On sait bien sûr que c'est faux, mais on a envie d'y croire. Et je pense que beaucoup de ces partisans de Donald Trump sont dans cette position-là. C'est-à-dire qu'ils entendent kayfabe quand ils parlent. Ils entendent be fake. Je sais que c'est pas tout à fait vrai, mais c'est une sorte de faux qui dit le vrai.
Dans ce contexte-là, pourquoi préférez-vous le terme de post-réalité à celui de post-vérité? Et même, pourquoi aller au-delà? Pourquoi forger celui de post-post-vérité?
Parce que je suis assez sceptique sur une interprétation du terme de post-vérité. Le terme de post-vérité ne me gêne pas si on veut dire par là que chacun se ménage avec les faits, voilà, des espaces de confort intellectuel. Cependant, j'ai constaté sous la plume de certains de mes collègues qu'ils entendent par là que les individus, nous contemporains, une partie d'entre eux seraient devenus indifférents à la vérité.
De collègues philosophes, notamment. De collègues philosophes, notamment.
Et qu'est-ce que ça voudrait dire que cette mutation, tout à coup, psychologique, qui correspond à aucun modèle biologique, d'ailleurs, pas même à un modèle psychologique, car moi, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui était indifférent à la vérité. J'ai rencontré des gens qui mentent, mais qui savent très bien le vrai. J'ai rencontré des gens qui se trompent et qui disent des choses fausses parce qu'ils croient vrai. Et j'ai rencontré aussi des gens qui croient à une vérité et qui mentent pour défendre cette vérité. La fin justifie les moyens. Mais c'est bien qu'à l'origine, ils croient à quelque chose de vrai. Sauf que là, en effet, je pense qu'on est passé à une étape supplémentaire. C'est d'ailleurs l'exemple que je donnais du licenciement de la chef des études statistiques. C'est-à-dire qu'on va modifier les thermomètres pour pouvoir croire ensemble que ce réel-là est vrai. Et par exemple, on peut modifier les catégories usuelles qui nous servent à comprendre le réel, comme les catégories biologiques de l'âge, par exemple, et on trouve des communautés que j'ai observées, donc, dans le livre, qui déclarent qu'ils n'ont pas l'âge qu'ils ressentent. Et croyez-moi, quand je suis un peu plus vieux que vous, mais vous verrez qu'on est tous comme ça. Moi non plus, j'ai pas l'impression d'avoir l'âge que j'ai, si vous voulez, et pourtant, évidemment, je ne fais pas un procès, comme certains, pour qu'on reconnaisse officiellement que j'ai, par exemple, 20 ans de moins que ce que dit ma carte d'identité, parce que ça me discrimine, par exemple, sur le marché de l'amour. Vous voyez ? Et alors ça, je n'invente rien. Ce sont des verbatims, en fait. Il y a aussi des gens qui prétendent ne pas être de l'espèce qu'ils sont apparemment des êtres humains. Donc, c'est les Terrians considèrent qu'ils sont des animaux. Mais je ne moque pas du tout, si vous voulez, ces communautés. J'essaye de comprendre leurs raisons. Et, par exemple, les Terrians, ceux qui croient qu'ils sont des animaux, eh bien, on a des tas de témoignages. Il y a des anthropologues qui ont travaillé sur ces communautés où il y a une manifestation, par exemple, dès le plus jeune âge, de ne pas se sentir dans son corps, de se sentir un peu plus lourd que son corps, de sorte que cette personne pense qu'elle est un ours. Ce que je vois en tant que sociologue, c'est pas moquer ce ressenti. Je ne sais rien de ce ressenti. Il est mystérieux. Il est peut-être physiologiquement explicable. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a des récits qui sont disponibles pour absorber ces anomalies et des communautés, souvent grâce au monde numérique cette fois, qui permettent de s'agréger et de croire ensemble qu'on est des animaux plutôt que des êtres humains.
Dans la compréhension plutôt qui nous permet de saisir la distorsion du réel, ses motifs, on accuse souvent la technologie, les algorithmes, l'intelligence artificielle, c'est d'ailleurs ce qu'on a fait nous-mêmes en commençant cette émission. Quelle est cependant notre responsabilité individuelle, et j'allais dire même la responsabilité de notre cerveau, de nos biais cognitifs dans cette falsification, cette corruption du réel?
Moi je pense, mais c'est peut-être une croyance de ma part, qu'on a toujours une responsabilité. C'est-à-dire qu'il est toujours quand même possible, dans l'absolu, de dire non. Seulement, il faut bien prendre conscience que ce non, il s'exprime dans un système de contraintes qui est très fort. Et donc, je ne déresponsabiliserai certainement pas les algorithmes et les mondes numériques. Je crois simplement que, en tout être humain, il y a plusieurs êtres possibles. Il y a, par exemple, un feignant intellectuel. On est tous un peu feignants intellectuels. Dans certains fois, on a envie de baisser les bras, etc. Mais il y a aussi quelqu'un qui a des ressources analytiques. Et ça, c'est un universel de l'humanité. Nous avons tous des ressources analytiques. Donc la question, c'est quel environnement social et politique va nous permettre de donner le meilleur de nous-mêmes. C'est pour ça que je pense que c'est une question éminemment politique. Il est évident, puisqu'on parle des réseaux sociaux et de l'affaire triste de streamer qui est mort, il est évident que dans certains contextes, nous avons des passions tristes, nous avons une passion pour la conflictualité, nous avons une passion pour les informations fondées sur la peur, et c'est ainsi que le marché de l'information se dérégule vers les passions tristes. Ce qu'organisent les mondes numériques, c'est en fait une fluidification entre toutes les offres et toutes les demandes possibles. C'est vrai pour Uber, mais c'est vrai aussi pour les passions tristes qui vont se fonder sur la volonté de voir l'autre humilié ou voir des éléments de violence qui peuvent nous fasciner par ailleurs.
Pourquoi accusez-vous, Gérald Bronner, certains pans des sciences sociales de nous éloigner du réel, de faire obstacle à notre observation de la réalité, pour citer le livre ?
Ah ben, il y a de nombreux penseurs, mais ça, les sciences sociales, ça, on en trouve aussi en philosophie, notamment en critique de la littérature au départ, bien qui mettent en examen, disons, les procédés rationnels d'administration de la preuve. La pensée méthodique en général, dont ils considèrent qu'elle est l'expression de la culture occidentale, et par conséquent, ils parlent de science occidentale. Ce qui me paraît avoir du sens historiquement, bien entendu, chaque civilisation a contribué à ce patrimoine mondial qui est la science, qui est à mon avis le patrimoine le plus précieux. Et en revanche, c'est une chose de dire que certaines étapes ont été franchies dans certaines cultures, c'est autre chose de dire qu'une culture a le monopole de l'expression de cette pensée. Je pense même que c'est fondamentalement injuste et discriminant de le dire. Je crois donc qu'en effet, à force de déconstruire les procédés d'administration de la preuve, et c'est vrai que les scientifiques ont des compulsions idéologiques, religieuses, comme n'importe quel individu, on oublie que les énoncés auxquels on aboutit sont précisément exfiltrés de leur production contingente. Et c'est pourquoi les valeurs, les lois de la thermodynamique, etc., ont une charge universelle lorsqu'on est...
Mais ça, c'est un exemple issu des sciences naturelles, mais j'allais dire, au sein du corps social, on peut aussi expliquer, grâce aux sciences sociales, qu'on a tous des expériences particulières et que la somme de ces expériences particulières forme ce qu'on appelle le réel.
Oui, certainement, on aurait raison de le dire, mais si je prends les exemples issus des sciences naturelles, c'est que précisément, même les sciences naturelles ont été accusées et mises en examen d'exprimer en quelque sorte des violences épistémiques. Par exemple, pour des groupes qui voudraient croire, je ne sais pas, prenons des exemples radicaux, que la Terre est plate, eh bien, si vous voulez faire la démonstration que la Terre est ronde, vous pourriez, dans le fond, organiser une violence épistémique à l'endroit de certaines communautés qui pensent qu'elle est plate. Vous comprenez bien que c'est une chose importante de respecter, d'être tolérant avec les différentes visions du monde, et ça je l'approuve tout à fait, c'est autre chose que de considérer qu'on ne peut pas faire de hiérarchie entre les modèles qui prétendent décrire le monde. Ça je m'y opposerai personnellement. Et pourquoi je m'y opposerai ? Parce que précisément ces recours à la rationalité sont les seuls outils qu'on a pour empêcher notre désir de plier le réel.
Parmi les chercheurs en sciences sociales que vous pointez justement dans cet argument, Bruno Latour, dont je voudrais vous faire entendre la voix.
Ce que j'essaie de faire dans l'enquête sur les modes d'existence, au fond, c'est de définir les valeurs qui nous tiennent. Par exemple, nous tenons beaucoup à la science. Mais on tient à laquelle ? On tient à la science avec un grand S, qui est une vue de l'esprit, ou on tient à la pratique scientifique qui exige une attention aux objets, des laboratoires, des moyens, des institutions qui permettent de former les chercheurs, ces choses que nous devons chérir. Et là, c'est tout à fait différent, la situation diplomatique. Si j'arrive en disant, mais moi je suis l'instance de la raison, et tous les êtres dont vous parlez, tout ça, ça n'existe pas, mauvais début. Mais si je dis, moi j'arrive avec la pratique scientifique qui permet, dans tout un tas de situations, d'obtenir des faits objectifs validé après longue discussion sur un nombre de sujets. Est-ce que ça vous intéresse ? Il est tout à fait possible que les autres collectifs disent « Oui, nous sommes tout à fait prêts à entrer dans cette discussion et à partager cette valeur ».
Comment est-ce que vous réagissez justement à cette distinction, Gérald Bronner, entre la science avec un grand S et ses pratiques plus concrètes liées à des procédures et des protocoles?
Je vais vous étonner, il n'y a rien qui me choque dans ce que j'ai entendu. Effectivement, la science avec un grand S est une construction de l'esprit.
Et c'est pour ça que je vous l'ai fait entendre, parce que j'étais certain que vous seriez en accord avec Bruno Latour sur ce
point-là.
Oui,
mais il y a quelque chose qu'il faudrait ajouter, c'est qu'on peut faire une enquête ethnologique, par exemple, dans un laboratoire et voir qu'en effet, il y a des rapports de pouvoir et que un consensus scientifique à court terme peut être parfois obtenu en raison de réseaux de pouvoir, de prestige de certains individus. Tout cela est vrai. Mais il y a dans la conclusion quelque chose d'absolument hyperbolique. Quand il étudie, par exemple, Bruno Latour, la controverse sur la génération spontanée entre Pasteur et Pouchet, il montre les rapports de force, les réseaux de pouvoir qu'avaient Pasteur, Pouchet, etc. C'est entendu. D'ailleurs, je signale qu'un sociologue, Dominique Reynaud, a montré que son analyse était globalement fausse, même sur ce point, mais peu importe. Admettons même qu'il ait raison sur ce point. Il a raison au moins sur un point, ils avaient des pouvoirs, et bien sûr qu'on cherche à en user, même quand on est scientifique, on cherche là aussi à imposer sa vérité. Sauf que, si à la fin, Pasteur avait raison sur Pouchet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de génération spontanée, c'est parce qu'il avait raison. Et si aujourd'hui on continue à lui donner raison, c'est certainement pas en raison, disons, de l'écume de quelques réseaux de pouvoir qu'il aurait eu. C'est-à-dire qu'encore une fois, il faut bien avoir conscience du fait que la science, c'est un travail collectif qui constitue comme conclusion, justement, le fait d'exporter les propositions de la contingence, de la subjectivité dans laquelle elles ont en effet été. Donc c'est pas incompatible d'insister sur la subjectivité des chercheurs, c'est un travail que la sociologie des sciences doit faire, mais si la conclusion, c'est que toute construction est fondée en réalité sur du pouvoir et n'a pas de valeur démonstrative supérieure à d'autres types de modèles, alors je pense que c'est une erreur.
À l'assaut du réel, et j'ajouterai les chemins pour y parvenir. Merci beaucoup, Gérald Bronner. Votre ouvrage paraît cette semaine aux presses universitaires de France. Il est presque 19h30.